Hello, hello! J'améliore l'aspect ou le goût, j'assure la conservation et je facilite la mise en forme et l'administration du principe actif. J'ai également l'aval de l'OMS, l'organisation matinale du son. Je suis Jean-Jean, l'excipient, bien le bonjour! En direct du pire qui reste à venir, au sommaire de cette matinale du mardi 9 juin 2020, nous parlerons de formation. Tiens, en alternance, oui, avec les CFA de l'heure, les centres de formation des apprentis, regroupés dans un club, le club de l'apprentissage et des métiers qui fête ses 25 ans. Nous leur avons tendu nos micros jeudi dernier, le 4 juin dernier, dans le cadre d'un dispositif mis en place dans ce contexte de Covid-19 que nous connaissons. Alors, mes amis, nous aurons également la chronique de Mr. Fred qui nous revient cette semaine. Alors Mr. Fred pourrait dans sa chronique chanter I have a dream, I'm three. Je ne vous en dis pas plus. Quant à notre ami, Patrick, il se repose cette semaine. On le retrouve la semaine prochaine dans sa chronique sportive. On aura également l'occasion d'écouter une création d'un de nos auditeurs dans le cadre du répondeur. Et puis tout ça sur la bande son musicale qui accompagne Le pire reste à venir, notre matinale du matin qui va bien. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Principe Actif. Je vous rappelle que nous sommes sur le 102.4 FM, 95.9 dans le sud de l'Eure. Et big kiss à nos amis rouennais, HDR Rouen. 99.1. Allez, bonne journée à tous! Et on va démarrer la partie musicale avec un hommage à Bonnie, une des sœurs Pointer, les Pointer Sisters, effectivement. Elles étaient au nombre de 4, elles ne sont maintenant plus que 2. En tout cas, c'est la bande-son quand même des années 80, 70, 80. On retrouve toujours un morceau des Pointer Sisters dans les films qu'on a pu regarder, qu'on regarde toujours, films des années, fin des années 70, début des années 80. Je vous propose I'm So Excited. Tida.
We'll put all of the things aside.
groupe vocal féminin américain de rhythm and blues, disco, soul, funk, originaire d'Auckland, les Pointer Sisters. Au revoir, Bonnie.
Oui, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
C'est moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah, la like mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Et ben voilà, là c'est pas un répondeur, c'est simplement un petit message de l'agente, voilà, qui nous écrit, qui écrit à Principe Actif, et qui nous envoie une production. Bonjour l'équipe, je me suis chauffé et je vous ai fait un mix de quelques prods que j'ai réalisés pendant le confinement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est mon premier mix, donc peut-être un peu décousu et besoin d'affiner le mastering. Bah écoute, moi je vous propose d'écouter ça, hein. Voilà, c'est juste un extrait d'une production de l'agente, un auditeur de Principe Actif, voilà, qui nous a écrit ce petit mot en nous demandant ce qu'on pensait. Ben écoute, continue, c'est parfait. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vraiment bien, tu nous envoies à nouveau des fichiers comme ça, et puis, chers auditeurs, laissez vos messages sur notre répondeur, donnez-nous vos avis, vos réactions, des informations locales, des coups de gueule, des coups de cœur, des remarques, des annonces d'événements, ou tout simplement de vos nouvelles, et vos messages seront diffusé à l'antenne tous les matins à partir de 8h05, 8h10 et même des productions musicales comme celle de l'agente. Mardi matin, il est 8h passées de 10 minutes, le pire reste à venir, c'est la chronique de Mr. Fred.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler de la vie secrète des arbres. Pendant le confinement avec ma fille Eline, nous avons reconstitué sur une grande planche de bois un arbre avec des collages de déchets trouvés sur un no man's land de voitures brûlées à Netreville. Métal, mousse, lichen, objets constituent ce petit monde. Il sera peut-être exposé au comptoir des loisirs pour le salon des confinés courant été-automne 2020, date à préciser. Alors j'ai voulu en savoir plus sur ces arbres. La vie secrète des arbres, un article lu sur le site web intentionné.com sur le livre écrit par Peter Wolleben, ingénieur forestier allemand. Je connaissais déjà un peu ce petit monde, même ce grand monde pourrait-on dire, mais de lire tous ces détails m'a vraiment intrigué. Les arbres seraient-ils si différents de nous? Nous ne voyons à peu près rien de la vie des arbres, car nous allons trop vite. Nous savons que les arbres sont utiles à la qualité de l'atmosphère que nous respirons, mais nous les imaginons statiques et prisonniers de leur immobilité. Nous les utilisons en coupe de bois ou en décoration, sans nous préoccuper de leur éventuel ressenti. Mais ce monde végétal vit intensément. Pour sa survie, un arbre tourne ses feuilles, tord son tronc, s'élance ou se rabougrit. Quand l'écosystème forestier est stable et garantit santé et bien-être, les arbres savent s'adapter aux changements qui les perturbent. Ils peuvent aussi réparer les dégâts causés par les catastrophes naturelles, car ils gèrent soigneusement leur énergie et leur force. Un monde végétal qui fait des choix et s'adapte. L'équilibre interne et le potentiel de reproduction des arbres dépendent de réelles stratégies d'adaptation. Ces variétés d'arbres qui migrent lentement suivent les modifications environnementales, celles des conditions climatiques ou du sous-sol. Quand l'environnement ne convient plus, les nouvelles générations s'implantent plus loin avec l'aide du vent et des mulots qui transportent les graines vers le nord ou le sud suivant leurs besoins. Cela leur permet de survivre aux grandes variations climatiques. Les stratégies de certains feuillus protègent des hardes de sangliers qui anéantissent leur production de glands et de jeunes pousses. En ne produisant fleurs et fruits qu'un an sur deux, ils limitent la population des prédateurs. Surprenant. Un monde végétal qui communique. Autonomes pour leur alimentation, les arbres ne peuvent cependant pas vivre isolés. Seules quelques espèces sont solitaires et ont une longévité moindre. Les autres ont une vie communautaire. Ils entretiennent des relations, communiquent, ils envoient vers l'extérieur ou vers leurs congénères des messages très variés, olfactifs, visuels, chimiques ou même électriques. Ils sont capables de distinguer leurs racines de celles des espèces différentes. Ajoutons à cela le travail de transmission effectué par la ramification de milliards de champignons. Soupçonnons-nous qu'une cuillère à café de terre forestière en contient plusieurs kilomètres de filaments. Les champignons seraient, d'après l'auteur, l'internet de la forêt, car ils émettent des substances qui favorisent la communication. En symbiose avec les champignons, les racines des arbres émettent non seulement des signaux chimiques, mais aussi des signaux électriques. C'est ainsi qu'elles évitent les obstacles du sous-sol. Les forêts ont une véritable structure sociale. Ils vivent en famille, et cette famille peut prendre la taille d'une forêt. Conscients de leur interdépendance, les arbres prennent soin les uns des autres, car chacun est utile à la communauté. Ils ont toutefois leur caractère, chaque espèce a ses particularités, communautaire, solitaire ou compétitive, agressive. Et au sein d'un même groupe, les individus aussi. Le choix du moment pour lâcher son feuillage à l'arrivée de l'hiver est propre à chacun. Au sein d'une même espèce, ils s'entraident. Ils travaillent en équipe. Racines, feuilles et écorces fonctionnent en véritable réseau d'alerte. Ils s'annoncent des agressions de ravageurs et se préparent à s'en défendre. S'échangeraient-ils aussi de bonnes nouvelles ? Ils organisent la solidarité. Les arbres qui ont le plus de sucre le partagent avec les autres pour équilibrer les ressources dans le groupe. Cela favorise le bon vieillissement de la forêt en évitant qu'un arbre meure et fragilise la forêt en y laissant un trou. Ils compensent leurs faiblesses et forces mutuelles. Et chaque individu se développe au mieux selon sa place dans la forêt et les nutriments auxquels il a accès. Ils ont des stratégies éducatives prévoyantes. Un arbre a besoin de temps pour grandir. Les arbres plus âgés privent les jeunes de lumière, provoquant chez eux une croissance lente, avec un tronc bien rectiligne. Ils leur donnent une chance de vivre plus longtemps. Quand un arbre croît lentement, ses cellules renferment moins d'air. Il résiste mieux aux aléas de l'existence, vent, maladie. Et tant pis pour ceux qui passent outre et se contorsionnent pour avoir accès à la lumière. Ils risquent déchirures et déséquilibre à l'âge adulte. Pour toutes ces raisons, éclaircir une forêt est une très mauvaise habitude. Les forêts les plus denses sont les plus sûres et productives. En ville, les arbres sont livrés à eux-mêmes et fragilisés. Domaine de la lenteur et de la discrétion, les forêts prennent du temps pour réagir aux modifications de l'environnement. Et l'humain qui vit dans la rapidité ne perçoit pas leur activité. Car pendant que les arbres migrent lentement et font évoluer nos paysages, l'exploitation forestière humaine et les tempêtes déstabilisent cet écosystème naturel. Les forêts d'arbres jeunes sont plus vulnérables et de récentes recherches scientifiques montrent que plus les arbres sont vieux, mieux ils participent à la lutte contre le réchauffement climatique car ils sont plus performants. L'écosystème général se base sur un processus très lent. Nous sommes en train de le perdre de manière irréversible. Nous maltraitons les arbres. Pourtant, nous avons un besoin vital d'eux. Agissant sur le sous-sol et sur l'atmosphère, les arbres régulent le climat et irriguent les sols, filtrent et assainissent l'air, et offrent refuge et nourriture à une multitude d'espèces végétales comme animales. Respectons cette société végétale, ne serait-ce que pour les bienfaits qu'elle nous procure. Les mesures comparatives des effets physiologiques d'une marche en ville et d'une marche en forêt penchent clairement en faveur de la marche en forêt. Ces bienfaits sont encore supérieurs lorsque l'on marche dans un bois dont les arbres échangent des signaux de bien-être. Que de leçons à tirer. Il n'y a pas la nature et nous, nous sommes la nature. Peter Volleben.
Eh bien, je regarderai différemment les arbres auprès de chez moi. Ça, c'est certain. Et puis, le salon déconfiné, ça m'intéresse. Au comptoir des loisirs, donc visiblement très prochainement. Merci, Mr. Fred. Mr. Fred.
Struggle to recreate the lines, and that's so somber. A tender kiss beneath the eyes. Having someone you say you need it too.
Il s'appelle Caleb Landry Jones, on le connaît comme acteur, c'est un musicien américain, trentenaire, texan, Oui, exactement. Je disais acteur, oui, effectivement, puisqu'il a joué dans le dernier film de Jim Jarmusch, par exemple, The Dead Don't Die, et puis en 2017, Les Panneaux de la Vengeance. Il sort un album, là, depuis quelques semaines, enregistré fin 2019, The Mother Stone. Voilà, il y a un petit peu du Marc Bolan là-dedans, un peu T-Rex. En tout cas, c'est produit chez Sacred Bones Records. Je rappelle son nom, Khaled Landry Jones, et le titre que nous avons écouté, c'est I did your dog.
Le pire.
Le pire.
Reste à venir.
Reste à venir.
Bon, allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
Voilà, et alors, y a-t-il du son ? Très bien, c'est parfait. Alors moi, je vous propose de retrouver le club de l'apprentissage et des métiers, voilà, puisque nous les avons... on leur a tendu le micro, là, dans le cadre d'une réunion, une conférence de presse, jeudi dernier, au CCI Évreux, dans le cadre donc d'un dispositif mis en place dans ce contexte de Covid-19 que nous connaissons. Je vous propose donc d'écouter ce petit monde.
Patrice Pierre, directeur général du CFA de Val-de-Reuil.
Là, on est dans une configuration où finalement vous avez le club de l'apprentissage devant vous. Alors le club de l'apprentissage, c'est quoi ? C'est une association qui regroupe les 8 directeurs de CFA du département de l'Eure. Alors c'est une histoire de longue date, hein. C'est une structure qui existe, hein, qui auparavant était portée par les chambres consulaires, hein, agricoles, métiers et commerce, et qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, a pris l'autonomie, hein, tout simplement parce que la réforme de l'apprentissage est passée par ici. Donc on est dans une configuration de crise où on a eu besoin de trouver, hein, et de faire preuve un petit peu d'imagination pour apporter de la lisibilité dans le processus d'orientation. Hein, donc c'est ce contexte-là, sachant que vous le savez, quand l'apprentissage en fait est vraiment fonction du contexte économique. Quand économiquement les entreprises vont bien, l'apprentissage va bien. C'est pour ça que depuis 2008, hein, après la crise de 2008, on a vu l'évolution des effectifs liée effectivement à une économie assez porteuse au niveau national. Donc aujourd'hui, on est devant une crise, hein, qui s'amorce. On le voit bien, les intentions de recrutement sont à la baisse. Hein, pour ici, c'est pas de Val-de-Reuil, je parle que pour le CFA de Val-de-Reuil, on a une estimation à peu près de 25% d'intention en moins de recrutement des entreprises, hein, ce qui est quand même assez significatif, et ce qui nous oblige du coup à repenser notre stratégie en matière d'orientation. Auparavant, on avait des grands jalons qui étaient positionnés sur ce chemin d'orientation, qui étaient les portes ouvertes, les salons, les forums, les job dating, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, hein, multipliait ses temps pour favoriser le projet, hein, le projet d'orientation des jeunes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que tout a été finalement rebattu, et que ce qui faisait en fait cet accompagnement au projet, les temps forts, ont été annulés. Donc plus de portes ouvertes, hein, plus de portes ouvertes dans nos établissements depuis le mois de mars, plus de job dating, de rencontres, de forums, de salons, de mini-stages, donc plus ces événements. Donc voilà, ça c'est le contexte, hein, qui fait que pour apporter de la lisibilité aux familles, aux jeunes et aussi, hein, aux principaux d'établissements et aux professeurs principaux de troisième et aux professeurs principaux de terminale, on a souhaité mettre en place une plateforme avec un numéro unique pour prendre rendez-vous dans nos établissements. Voilà. Hein, donc c'est ce dispositif, hein, qu'on présente aujourd'hui et qu'on décline, c'est un dispositif autour d'un numéro unique, pour prendre rendez-vous dans nos établissements, venir à notre rencontre, venir découvrir nos formations et le contexte professionnel. Voilà le format et le cadre de cette présentation.
Je relais effectivement les propos du collègue.
Donc Bernard Bergouniou, directeur de CFA Bâtiment Évreux.
Nos repères ont été sérieusement mis à mal. Donc si nous on perd nos repères, fatalement nos partenaires perdent aussi les repères. Et il y a besoin de rassurer rassurer les familles déjà dans un premier temps, puisque on va travailler effectivement sur la sécurisation de leurs projets professionnels. Et on sait que là, déjà trouver une entreprise, une formation, un CFA, parfois c'est pas toujours simple, hein, ça peut ressembler à un parcours de combattant. Aujourd'hui, dès qu'on perd des repères, les repères qui ont été cités par Patrice, hein, et, ils les ont plus, ils savent plus comment nous atteindre, malgré, je dirais, toutes les actions que nous menons. Et l'intérêt sur le territoire, c'est vraiment cette force que nous avons et qui est historique, hein, sur le territoire, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, c'est que quand même, là, on a 8 CFA qui couvrent pratiquement tous les domaines de la formation via l'alternance, qui peut répondre et qui va répondre aux besoins des jeunes, puisque la force vive, elle est là, et les entreprises en ont besoin. Donc on va reparler de plans économiques, de réinvestissement, effectivement, de l'effort. Il faut que ces jeunes-là viennent dans nos métiers. Et pour nous rencontrer, bah, le numéro unique, c'est vraiment une bonne initiative. Et derrière, bah, toute la machinerie qu'on a toujours mis en place, etc., va se mettre en place avec nos équipes qui se sont énormément professionnalisées et pouvoir accompagner vraiment dans des délais les plus rassurants. Parce que c'est souvent les délais de rentrée qui quelque part, apportent aussi des inquiétudes aux familles. Que va faire mon fils s'il veut rentrer en apprentissage et il ne trouve pas, effectivement, soit le CFA, soit l'entreprise? Qu'est-ce qu'il va devenir, enfin, etc. Donc, on a tout un dispositif à leur proposer, un accompagnement personnalisé pour qu'ils puissent arriver dans nos métiers dans les meilleures conditions. Donc, c'était vraiment un point important qu'on voulait mettre en avant à travers, effectivement, vos médias. Ça, c'est important, et surtout sur le territoire, que ce soit entendu de la part de nos partenaires entreprises, des prescripteurs, que ce soit effectivement Mission Locale, CIO, PLI, enfin tous les organes qui travaillent avec nous aujourd'hui, avec les relais, bien sûr, les principales cibles, entre guillemets, qui sont effectivement les collèges et les lycées. Et là, on a fait la boucle. Et venez au-devant de chaque CFA, on saura vous accueillir. Soit en présentiel, soit à distance, mais on sera là pour vous porter dans votre projet. Donc ça, c'est important et c'est un message qu'il va falloir marteler tant qu'on pourra. Et surtout, ça c'est un point important aussi, la rentrée ne s'arrête pas à la date de rentrée scolaire. Aujourd'hui, la réforme de l'apprentissage est aussi passée par là. On a des entrées qu'on peut appeler entrées permanentes. Moi, je vois cette année, de janvier à maintenant, on a rentré quand même 65 jeunes en contrat d'apprentissage. Ce qui n'était pas possible avant. Donc ça veut dire qu'à tout moment, c'est pas perdu. On trouve une entreprise, derrière, on a des dispositions, des dispositifs qui permettent de signer des contrats de travail. Donc ça, c'est important aussi de le souligner.
Alors, on parle du numéro unique, mais je vais vous le donner, puisque finalement, se parler sans le donner, c'est finalement, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc le numéro unique pour joindre, du coup, l'ensemble des CFA, les 8 CFA, c'est 0278. 98 50 27. Donc la stratégie, c'était d'avoir un numéro qui soit gratuit, un numéro qui ne soit pas du coup une charge pour les familles ou pour les jeunes, et un numéro qui commence par 02 et qui finisse par 27. Hein, c'était notre volonté. Voilà. Donc derrière ce numéro, il y a quoi? Derrière ce numéro, il y a une plateforme qui est tenue donc du coup par chacun des 8 CFA, hein, et qui permet du coup de fixer le rendez-vous, d'accord? Donc il y a une plateforme, hein, unique pour pouvoir derrière, hein, caler le rendez-vous dans une période là, très courte, hein, puisque c'est notre volonté, c'est d'être réactif, hein, et tout de suite proposer dans nos organisations, puisque vous savez que les regroupements dans les espaces publics sont interdits sur un nombre important de personnes. Donc il faut du coup proposer des rendez-vous individuels, hein. Donc le format, c'est rendez-vous d'une personne plus d'un accompagnateur, hein, c'est le format qu'on a défini, une personne plus un accompagnateur.
David Rousseau, directeur de l'ESSI Port de Normandie.
Donc, moi, si je peux rajouter dans tous ces propos-là, donc, c'est qu'on va être réactif, comme disait Patrice, on va être très très réactif pour accompagner le jeune et la famille dans sa recherche d'entreprise, quoi. Les entreprises, il y a un plan de relance, il y a une relance, ça repart, l'apprentissage, il faut y croire. Donc on va pouvoir accompagner dans nos CFA, dans nos 8 CFA, on va pouvoir accompagner ces jeunes dans leur recherche d'entreprise. Et en plus, on a un certain temps, comme le disait Bernard, pour les accompagner, donc c'est pas au mois de juillet, c'est pas grave, si au mois de juillet il n'y a pas d'entreprise, on va pouvoir en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, enfin voilà, accompagner tous ces jeunes-là dans la recherche d'entreprise. On a des demandes, nous avons des demandes, je pense que tout le monde a des demandes.
Oui, complètement.
Donc voilà, maintenant il faut que l'on puisse positionner nos jeunes, nos candidats dans ces entreprises-là. Et donc il est important de s'inscrire, que ce soit dans les différents disciplines, dans les différents secteurs.
Il y a une progression du nombre d'apprentis en Normandie sur les dernières années, les 4 dernières années, ça a été plus 17% d'apprentis sur la région Normandie. Donc on voit bien du coup une dynamique qui s'est mise en place. Ce qu'on veut, c'est conserver cette dynamique. Parce qu'on le sait, l'apprentissage, c'est aussi un moyen de lutter contre le chômage des jeunes. Le président Macron va annoncer, faire des annonces justement sur l'emploi des jeunes. On le sait, l'apprentissage est une réponse pour lutter contre le chômage des jeunes. Ça c'est un message qu'il faut faire passer. Et puis aussi dire aux entreprises, on a besoin d'elles pour former aujourd'hui, mais du coup former aujourd'hui pour avoir les compétences de demain. C'est dire investir aujourd'hui, c'est rentabiliser du coup cette formation dans le temps. Donc il y a cette idée d'avoir un investissement au long cours. Pourquoi ? Parce que demain, quand des chefs d'entreprise vont vouloir céder leurs entreprises, si elles n'ont pas formé pendant un certain nombre d'années, ces personnes-là seront en difficulté pour assurer la transmission des compétences, mais assurer tout simplement leur patrimoine, leur bien. Ce sera compliqué de le céder s'il n'y a pas de compétences, et donc l'utilité de former. On a derrière nous le recul de la crise de 2008. Alors c'est vraiment important de se dire, finalement, on part pas de rien, parce qu'en 2008, on a connu une crise en 2008, et en 2008, finalement, beaucoup de secteurs ont décidé du coup de ne plus former parce que ils sont resserrés sur leurs activités essentielles, et la formation ont un petit peu délaissé la formation au profit de la production. Et on s'est aperçu que du coup il y avait des cohortes entières de jeunes qui n'avaient pas été en emploi et qui du coup n'avaient pas développé de compétences. Et ça a manqué, et on a connu après des secteurs en tension, des secteurs entiers en tension. Pourquoi ? Parce qu'un manque de formation 7, 8 ou 9 ans auparavant. Et les métiers du bâtiment en sont l'illustration parfaite.
Parfaite
sur les métiers du bâtiment.
Est-ce qu'on est en mesure de connaître si aujourd'hui, au vu de la situation, des jeunes apprentis ont démissionné, entre guillemets ? Est-ce qu'il y a des chiffres sur le département de l'Eure ?
Sur la période du confinement ?
Oui, dû à la situation que l'on vit depuis, on va dire, depuis 3 mois.
Thérèse Ozou, présidente du CFAIE de Val-de-Reuil.
Alors nous, contrairement, je ne sais pas pour nos autres collègues, on n'a pas abordé le sujet, nous on a eu plutôt beaucoup moins de ruptures de contrats, puisque les jeunes ont été placés, ceux qui ne pouvaient pas travailler ont été placés en chômage partiel. Donc les entreprises ne se sont pas séparées d'eux. Je ne sais pas si c'est le même cas.
Oui, c'est pareil.
Ouais. Et finalement, le dispositif de chômage partiel a certainement permis qu'il y ait moins de ruptures de contrat. Voilà. Donc ça, c'est plutôt un des points positifs, je pense, de la période qu'on vient de traverser.
C'est vraiment le constat qu'on a fait aussi
Aussi pendant le confinement. Alors là, on en a quelques-uns après le déconfinement. Donc c'est un peu vérifié. Le décrochage, c'était pas que vis-à-vis du CFA, mais pouvait être aussi un peu vis-à-vis du métier ou de l'entreprise.
D'accord.
Et à partir du déconfinement, là, on en a eu quelques-unes.
Jean-Marc Elias, directeur du CFA Hortipol à Évreux, donc métier du paysage et de l'horticulture.
Bon, il est trop tôt pour mesurer encore. Les chiffres ne seront pas plus élevés que l'année dernière, quoi. Mais ça a été un peu provoqué par ce retour dans l'entreprise. Et le jeune avait également décroché un peu de...
Ceux qui avaient arrêté de travailler.
Voilà.
Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui ont continué à travailler normalement, on va dire, et d'autres moins. Restaurants, bien évidemment, ils ont arrêté de travailler pendant 2 mois et demi. Ça va peut-être être plus compliqué d'y retourner. Mais boucherie, charcuterie, etc., boulangerie, tout ça, ça n'a pas été trop impacté. Même s'ils ont eu une baisse d'activité, ils n'ont pas été complètement arrêtés, généralement.
Le métier du bâtiment, c'est pareil, ils n'ont pas arrêté complètement.
Oui. Bernard Bergugno, directeur de CFA Bâtiment Évreux.
Là où ils ont été en peine, c'est parce qu'il n'y avait pas d'approvisionnement en matériaux.
Ouais.
Et souvent, c'était lié à ça. Et les jeunes se sont retrouvés effectivement en chômage partiel parce que l'activité ne permettait pas d'être réalisée pour un manque d'approvisionnement. Autrement, les chantiers, je dis les chantiers chez l'artisan, les gros chantiers, oui, ils ont subi quand même des arrêts systématiques, mais chez l'artisan, etc. Il a bien fallu faire du dépannage, il a bien fallu apporter un service à leur clientèle, donc le travail était là. Mais il n'y a pas eu de, tant de décrochage que ça, malgré effectivement ce confinement. Et puis, comme le disait Patrice tout à l'heure, hein, ça nous a permis aussi de nous réinventer dans nos stratégies pédagogiques. On parle beaucoup de classes virtuelles, de distanciation aussi pédagogique, travail à distance. Et pour des niveaux supérieurs comme le bac, le BTS, l'étude d'ingénieur, aujourd'hui c'est quelque chose qu'on va encore développer après effectivement le retour à l'activité. Donc ça modifie automatiquement notre vision, stratégie pédagogique vis-à-vis de nos publics. Et ça, oui, c'est important aussi.
Qu'on devra prolonger sur la prochaine rentrée dans les années futures. Alors ce sont des dispositifs qui existent depuis 20 ans. Hein. On connaît, il n'empêche que dans nos métiers, parfois manuels, on les appliquait peu parce qu'on était sur le geste, hein, sur le faire pour apprendre. Mais on devra un peu se réinventer dans nos pratiques pédagogiques.
Complètement.
David Rousseau, directeur de l'ESSI Port de Normandie.
Nous, sur les études supérieures, donc Bac plus 2, Bac plus 5, on n'a pas eu de décrochage parce que déjà, notre enseignement est plus facile parce que c'est que de l'ordinateur, on va dire. Hein, voilà, hein. Donc, ils sont déjà tous équipés d'ordinateurs, donc ils avaient l'équipement nécessaire, il n'y a aucun problème. Et en effet, on a appris que vendredi pour le lundi que l'on devait fermer notre établissement. Donc, nous, les équipes pédagogiques, et je pense que c'est la même chose sur les 8 CFA, a réagi à une vitesse, à une adaptation extraordinaire, parce que nous, dès lundi ou mardi, on arrivait à proposer du distanciel, donc de la formation à distance. Et puis là, on est en train de s'adapter même aux épreuves d'examen qui n'existent plus, qui se font en contrôle continu ou en sous-dossier, etc. Et donc, cette adaptabilité, on va l'avoir en septembre aussi.
Complètement.
On ne sait toujours pas le 1er septembre ce qui va se passer. Quoi. Et on l'aura. Et même le 11 mai, hein, la reprise, on a appris, je ne sais pas, le 8 mai, je crois, le 8 ou le 9, oui. La veille, le 7 mai, qu'on pouvait reprendre le 11 mai. Quoi. Voilà. Et donc la tentabilité a été et on l'a fait.
Alors, il y a sur ce département quelque chose d'unique, je crois que étant aussi membre de l'ARDIR, l'association régionale des directeurs de CFA, on voit bien que le département de l'Eure est spécifique. Pourquoi ? Parce que on est dans une culture du travail, on a l'habitude de travailler ensemble, on se connaît bien.
Patrice Pierre, directeur général du CFA de Val-de-Reuil.
Il y a un collectif des directeurs de CFA sur le département de l'Eure qui n'existe pas ailleurs, qui n'existe pas et qui aujourd'hui nous permet du coup à l'échelle d'un département de trouver des réponses et des réponses efficaces qui apportent de la visibilité, la lisibilité, de la simplicité. C'est-à-dire simple, c'est simple, un numéro. Vous voulez aller dans un CFA, vous voulez visiter un CFA, il y a un numéro, c'est pas compliqué.
D'accord. C'est accrocher le premier contact de ces jeunes qui sont perdus des familles et
c'est simplifié au maximum quoi. Un seul.
Et même pour les principaux de collège aussi, d'avoir un numéro unique.
Pour tout le monde, voilà.
Parfait. Selon ce que le jeune veut faire, il n'est pas toujours fixé en plus sur son choix. Donc là, ça lui permet justement d'avoir une réponse large. Quoi.
Voilà. Alors, c'est peut-être moins vrai, CFA ou d'autres.
Peut-être moins vrai pour les formations post-bac, parce que ce sont des jeunes généralement qui savent ce qu'ils veulent faire. Moi, je suis plus sur des formations CAP, VP, donc un peu de niveau un peu inférieur. Mais ce sont des emplois de proximité aussi, et ça. C'est essentiel, hein, c'est des emplois qui ne seront pas décentralisés. Hein. Voilà. C'est vraiment là, on est sur le terrain.
Oui.
Dans un monde qui est juste à moi, je m'en vais loin des tourments d'ici-bas. Y'a plus de gens qui mentent, de gens qui se lamentent, voleuses d'amour et voleurs d'âme. Y'a plus de gens qui trichent, qui laissent le cœur en friche, alors je joue de mon harmonica. quand je joue de l'harmonica, je retrouve ma famille à moi. Dans ce monde ou dans l'au-delà, ils sont tous là, tout autour de moi. Je vois tous mes amis, je les vois qui sourient. On joue, on chante, on rit. Plus personne dans l'oubli, les ombres reprennent vie. Alors je joue de mon harmonica. Entre mes doigts et mes notes s'envolent vers toi comme une prière quand tu es loin de moi, au détour d'un nuage, au fond d'un coquillage, dans le soleil après l'orage. Te dire où que tu sois, mon cœur est avec toi. Alors je joue de mon harmonica pour un petit espoir, une lueur dans le noir, une raison d'aimer ou croire. Comprendre ton histoire, prendre un nouveau départ, je joue de mon harmonica.
Voilà, cet extrait de l'album Reflet de Alain Messier, harmoniciste et musicien. Un musicien qui a un cœur gros comme ça. Et puis parfois, bah, le cœur, ouais, il y a des, voilà, la machine se dérègle un petit peu. Donc, Alain était le premier avec ses deux acolytes, Stéphane et Yann, à ouvrir l'Octroi Acoustic Club du mois de décembre. Voilà, bon, un peu de repos, mon petit père Alain, et on souhaite te revoir prochainement sur scène, bien évidemment. Bien évidemment.
Trop d'emplois, tu l'emploies. Vive les bénévoles.
Principe actif, c'est actif par principe.
Et on retrouve le club de l'apprentissage et des métiers. Voilà, nous leur avons tendu nos micros, les micros de Principe Actif, jeudi dernier, dans le cadre d'un dispositif mis en place dans ce contexte de Covid-19. On poursuit ces échanges avec le club de l'apprentissage des CFA de l'Eure.
Mes Dardy, je suis le directeur du CFA en élevage à Canabille, entre Louviers et Le Neubourg, et nous accueillons des personnes qui se forment donc au métier de l'élevage en agriculture. Et en ce qui concerne l'apprentissage et l'activité, il n'y a pas eu du tout d'arrêt. J'ai eu qu'une seule situation où l'apprenti n'a pas pu aller dans l'entreprise. Sur les 93 apprentis, donc c'est vrai que c'est une activité qui a pleinement tourné malgré la situation de confinement. Et en même temps, il y a eu dans beaucoup d'exploitations agricoles un gain d'activité, puisque certains se sont mis à vendre en direct leurs produits. Et il s'avère que là, les fins de contrat s'annoncent et ces mêmes employeurs demandent des apprentis. J'ai plus de places à pourvoir qu'actuellement de candidats, mais à tout niveau. Donc, c'est une vraie phase de recrutement qui est en cours.
Une question. Ce numéro est exclusivement destiné à la prise de rendez-vous ou les parents qui sont en questionnement peuvent également avoir des informations sur le type de formation dispensée par tel ou tel CFA?
Non, c'est pas sur de l'information. On est là sur une prise de rendez-vous et l'information se fait sur site. D'accord, puisque on est sur une plateforme générique, hein, et que on va tenir des permanences, et que moi je vais être amené à tenir des permanences pour l'élevage, par exemple. Et je suis absolument pas en compétence pour parler de l'élevage. D'accord. Voilà. Ah, Amédée, tu me confirmes. Tu confirmes que mes compétences sont limitées.
Mais si quelqu'un me pose une question sur l'élevage, je pense que vous allez pouvoir au moins lui donner le numéro du CFA.
Bien sûr, c'est ça. L'information.
Il y a quand même une connaissance des CFA entre eux.
C'est ça.
Ce qu'on fait les uns et les
autres. Au moins leur dire qu'il faut bien les élever pour les cuisiner.
Ouais, il est dur.
Non, mais c'est vraiment une plateforme de prise de rendez-vous et l'information, l'accompagnement se fait sur site. Hein, c'est notre stratégie d'avoir une plateforme assez générique, hein, et que finalement ce soit bien sur site, que l'information se transmette.
Les 8 CFA que vous représentez totalisent combien de jeunes sur le département? Et habituellement, chaque année, combien de nouveaux entrants sont comptabilisés dans les CFA?
Alors, 4 000, hein, on veut visiter, Jean-Marc.
Non, t'as dit, je sais plus.
Plus de 4 000. Là, ça représente donc. On représente.
On a quelques 4 000.
Voilà, 4 000 apprentis, hein, 4 000 apprentis à l'échelle des 8 CFA.
Alors les nouveaux?
Alors les entrants, c'est variable.
Au CFA de Val-de-Reuil, tous les ans, on accueille environ 1000 jeunes, 1000 jeunes nouveaux, toutes formations confondues. Mais on est le plus gros CFA, donc c'est normal qu'on en accueille beaucoup. Je ne sais pas au bâtiment combien vous.
Oh, c'est entre 450 et 500 nouveaux.
Donc c'est 120. Ouais. C'est quasiment 50%, quoi. Hein, voilà.
C'est également 50%.
Voilà. Entre 45 et 50% de primo-entrants, quoi. Voilà,
on pourrait dire, si on est à plus de 4000, on pourrait dire entre 1800 et 2000 apprentis, chaque année, nouveaux.
D'où l'importance, quand même, d'arriver à capter ces jeunes, ces nouveaux entrants, parce qu'on parle aujourd'hui de. Peut-être 25 à 40% de baisse de rentrée. Donc, vous imaginez au CFA de Val-de-Reuil, 1000 que multiplie 25%, ça fait 250 jeunes en moins. C'est assez important quand même.
Est-ce que cette initiative existe aussi dans d'autres départements de l'Hexagone?
Pas en notre connaissance.
En termes de club, tel que ça vous est présenté, non. Pour avoir fait plusieurs régions, je peux vous dire que ça n'existe pas. Des initiatives avec effectivement des stratégies pour pouvoir accueillir virtuellement ou présentiel individuel. Oui, chaque CFA, dans sa propre communication, a développé cette stratégie-là. Mais là, encore une fois, je rejoins tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est vraiment la force du territoire, c'est que les 8 CFA du territoire se réunissent, comme on l'a toujours fait, pour pouvoir parler d'une seule et même parole. Et ça, c'est important. Il faut que les familles puissent... grâce à cette plateforme, pouvoir être orienté sur la bonne structure en fonction du choix qui est demandé de la part du jeune. Et ça, c'est gagner en réactivité et surtout avoir un accueil professionnel. Et les familles sont sensibles à ça.
Voilà, la parole de l'apprentissage est portée de façon unique, quoi, l'ensemble. Et je rajouterais juste qu'il y a un très bon partenariat avec les services académiques. On a de très bons relais. Enfin, et peut-être sans ce club de l'apprentissage, les choses auraient été différentes. Hein, on se parlait de façon dispersée. C'était pas pareil. Donc,
c'est vrai que t'as
le collectif donne une force là, vis-à-vis des prescripteurs et notamment de l'éducation nationale.
Le club travaille de toute façon toute l'année et la parole que vous portez dans les collèges par exemple est unique aussi.
Est unique.
Voilà.
Et on a réussi à faire les informations là, de l'apprentissage le soir dans les collèges, c'est assez unique ça, les collèges nous ouvrent leurs portes pour qu'on aille le soir parler de l'apprentissage de façon générale, et ensuite on présente nos métiers les uns les après.
Au niveau des entreprises qui sont susceptibles d'accueillir des jeunes, est-ce que vous sentez une frilosité par rapport à la situation actuelle ou au contraire, vous les sentez plutôt ouvertes à accueillir des jeunes à la rentrée prochaine?
Alors, il y a deux cas de figure. Il y a deux cas de figure. Alors, il y a, par exemple, les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration pour lesquelles, là, aujourd'hui, le sujet, c'est même pas le sujet. C'est-à-dire que leur demander comment elles se projettent à la rentrée, les gens vous disent, je comprends même pas ta question. Je comprends même pas ta question. Laisse-moi sur le cœur du sujet. Aujourd'hui, c'est pas ma priorité. Donc, il y a des entreprises qui, sur l'hôtellerie et de la restauration, sont, du coup, pas du tout capables de se projeter. Par contre, il y a des entreprises qui, en termes de variables économiques, c'est-à-dire que font des choix et que le coût aujourd'hui d'un apprenti, notamment des apprentis mineurs, hein, du coup, peut être un élément de décision dans un contexte de crise. Je m'explique. Un apprenti a un coût horaire qui est très avantageux, d'accord, puisqu'il y a des aides d'État, hein, il y a des aides d'État qui sont proposées pour les entreprises de moins de 250 salariés. Donc vous avez du coup un coût horaire qui est intéressant pour une entreprise. Et donc quand une entreprise est en difficulté économique, elle peut avoir cette tentation du coup d'avoir recours plutôt à un apprenti plutôt qu'à un salarié. D'accord ? Tout simplement parce que ça peut quelquefois permettre du coup de passer une petite période et de passer une situation de crise. Donc ça, c'est un élément aussi à prendre en compte et c'est ce qu'on explique aux entreprises et nous-mêmes. Hein, on essaie de leur dire que ça peut être aussi une occasion d'affronter la crise économique, c'est-à-dire d'avoir des personnels avec des coûts qui sont aidés par l'État.
Alors après, ça dépend tout à fait des entreprises. Nous, on travaille dans l'industrie avec des entreprises, des grandes entreprises dans l'industrie. Même pendant le confinement, ils étaient dans la procédure de recrutement d'apprentissage. Hein. Voilà. C'est vraiment du cas par cas. Quoi. Ouais. Je ne sais pas dans l'élevage comment ça se passe, vous voyez, dans l'horticulture, le bâtiment, etc. Et nous, dès qu'on avait la grande entreprise, le processus continue.
Oui, alors je pense que c'est vraiment. La réponse est difficile parce que moi j'ai parlé avec un salon de coiffure, par exemple, qui m'a dit actuellement une apprentie nous prend la place d'un client. Comme ils sont limités en nombre de mètres carrés, de nombre de personnes accueillies, elle me dit moi je ne prends pas une apprentie pour l'instant qui va m'empêcher de prendre une cliente. On peut l'entendre. Donc ces gens-là, ils attendent un peu de voir comment vont se passer les prochains mois avant de lancer leur recrutement. Ce qui les rassure, c'est que moi je lui ai dit justement que l'entrée maintenant n'était pas forcément dès le mois de septembre. Donc ça les rassure plutôt de se dire, même si je prends ma décision qu'en septembre ou octobre, je pourrais quand même mettre mon jeune en apprentissage. Mais ça, c'est vraiment... tout dépend de la typologie d'entreprise. Ça, c'est clair que dans le bâtiment, je pense qu'une grosse entreprise ne réagit pas en ce moment pareil qu'un artisan maçon.
Enfin, souvent, les entreprises du bâtiment sont liées au carnet de commandes.
Ouais.
C'est ça. C'est ça qui vont définir effectivement les stratégies de recrutement pour la rentrée. Les grosses structures, oui, elles sont dans une politique de recrutement. Le service RH se met en mouvement et ils n'ont pas arrêté de recruter. Par contre, l'artisan, oui, ce qui va le motiver, c'est le carnet de commandes. Parce que les conditions sanitaires chez le client, c'est contraignant, mais c'est pas aussi contraignant qu'un salon de coiffure. Il y a pas c'est assez facile de pouvoir faire un geste.
On pense aussi que dans certains restaurants, la taille de la cuisine peut aussi entraîner ça.
Et moi, je suis un peu dans le même cas que Bernard, puisqu'on est dans des activités de chantier.
Oui.
Avec eux, enfin, quand il y a eu, ils sont restés à la maison, c'était les transports dans le camion, quoi, qui passaient. Voilà. Et c'est pareil, c'est directement lié au carnet de commandes. Hein. Donc aujourd'hui, pendant le confinement, il était bon, il était entre 6 mois et 1 an, le carnet de commandes, donc ils pensent en prendre, mais on verra en septembre. Et je suis dans un secteur où traditionnellement, quand même, on formait par l'apprentissage. Le renouvellement, le développement de la main-d'œuvre se faisait par l'apprentissage sur un pourcentage assez élevé.
Comparément à l'ESCCI, vous n'avez pour l'instant pas de demande.
Si, on a des demandes. Alors, on n'est que dans la petite entreprise. Hein. Quand même, la grosse entreprise chez nous, on en a quelques-unes, c'est 50 salariés. Quoi. Enfin, voilà. Par contre, j'aurais peut-être une baisse, puisque moi, je pense être celui qui a le plus dans le secteur public. Et là, comment vont réagir puisque les collectivités, les mairies, hein, je ne sais pas trop. Il y a eu des tentatives de développement aussi de l'apprentissage dans le secteur public. Hein,
mais nous, on a des demandes, on voit bien, donc les demandes commencent à arriver tranquillement. Alors c'est vrai qu'on a été fermés même s'il y avait un accueil téléphonique, mais les entreprises n'appelaient pas, puisque bon. Puis quand vous avez votre salon de coiffure qui est fermé, vous n'avez pas envie de recruter quelqu'un sans savoir quand est-ce que vous allez réouvrir. Donc là, ça commence à arriver, nous, sur notre page Facebook, on a régulièrement des offres d'emploi qui circulent. Mais si on se met sur l'année dernière, on était à un niveau de candidats et d'entreprises qui était plus important. Mais bon, nous, ce qu'on regarde, c'est la courbe. Et la courbe monte. Donc on est plutôt satisfait. On se dit qu'il faut que ça continue comme ça jusqu'au 10 juillet, au moins. Voilà. Mais par exemple, nous, on avait pris la décision de ne pas fermer cet été, mais on l'avait pris avant le confinement, et on est bien content finalement d'avoir pris cette décision-là. Il y aura une permanence qui va se faire tout l'été, bah, on se dit que ce sera peut-être pas mal, quoi.
Ce numéro est accessible depuis quand ou à partir de quand et sur quel créneau ?
Alors, il est accessible à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, de 9h à midi, de 14h à 17h, et jusqu'au 31 juillet. Alors après, on verra quelle suite on donne pour la rentrée, parce qu'on voit bien que la rentrée va s'échelonner et qu'on va avoir besoin, du coup, de continuer à accompagner les candidats à partir du mois de septembre. Mais pour l'instant, hein, on a pris la décision d'aujourd'hui jusqu'au 31 juillet.
Juste un rappel, l'autonomie du club date de
1993.
Je crois, pour l'adolescence.
Oui, oui. Mais en statut associatif, ça date de là. Ouais. Mais on a gardé le même nom, on a gardé la même structure, enfin, etc. Ça a vraiment été une volonté de la part du champ consulaire de... Que ça ne s'arrête pas, parce que c'est quand même assez particulier.
Oui, c'est vraiment... Le travail entre la CCI et la CMA a toujours existé. Ouais, et c'est vrai que... sur ce genre de problématiques qui sont communes à tout le monde, il y a toujours eu une entente, mais la FFB aussi. Voilà. Donc, c'est un club qui est vraiment porté par toutes les organisations professionnelles que vous pouvez connaître. Et ça c'est pas mal.
C'est unique, enfin, je ne sais pas si c'est toujours unique en France, mais voilà.
On dit que le département d'œuvre, c'est moins cette particularité que les organisations. Patronale, professionnelle, travaillent ensemble. Et ça se ressent dans ce genre de dispositif, par exemple.
Il y a une volonté de notre part aussi, c'est de dire aux entreprises, anticiper la reprise. Anticiper la reprise, parce que la reprise aura lieu. D'accord ? Elle aura lieu, cette reprise. Donc, commençons par l'anticiper en recrutant des apprentis. Hein, c'est aussi ça, c'est aussi anticiper, hein, et c'est le rôle d'un chef d'entreprise, c'est d'anticiper dans le temps. Et lui dire, anticipons tout de suite pour être prêt lors de la reprise.
Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin, puisque nous sommes à la fin de cette matinale. Du pire reste à venir. Donc c'était le club de l'apprentissage. Je rappelle le numéro unique, la plateforme numéro téléphonique, qui est le 02 78 98 50 27. Voilà, jusqu'au 31 juillet, de 9h à 12h, de 14h à 17h, pour toute demande d'information et prise de rendez-vous. Je vous dis bye bye, demain c'est Mosquito à la matinale et je vous dis au revoir à la semaine prochaine.